je dois commencer par vous dire que mon titre a un petit peu changé. Ma communication s'appelle maintenant « Portrait d'une vraie fille, nana, tableau, roman et mise en scène ». C'est en 1877 que Manet songe à en mettre encore une fois plein la vue au jury du futur salon. Et comme le dit Pierre D., quoi de mieux qu'un portrait de cocotte en déshabillé avec tous les raffinements d'un intérieur. Ainsi est née Nana, tableau qui, comme dans tant d'autres de Manet, sera rejeté par le jury du salon pour immoralité. Ce n'est qu'en février ou mars 1878 que Zola, quant à lui, se met à son roman qui apparaîtra en février de 1880. Au mois de janvier de cette même année, Le Figaro annonce que Nana va être adaptée pour la scène. Et comme c'était le cas pour L'Assommoir, c'est à William Busnach que Zola accorde ce droit. Quoique le romancier travaille étroitement avec Busnach, la pièce ne sera signée que de ce dernier. Le but de Manet, comme de Zola, était de faire le portrait d'une vraie fille. Une analyse comparative de ces trois œuvres soulève plusieurs questions d'ordre fondamental, tant en ce qui concerne le naturalisme qu'en ce qui concerne les techniques de représentation. Selon Zola, Manet suit la même méthode que lui et obtient les mêmes résultats. Et je cite Zola, Édouard Manet applique la même méthode à chacune de ses œuvres. Il place tranquillement dans un coin de son atelier quelques objets et quelques personnes et se met à peindre en analysant le tout avec soin. Je le répète, c'est un simple analyste, il est avant tout un naturaliste. Cette méthode analytique que Zola retrouve dans l'art de Manet serait donc une manifestation de plus de ce courant irrésistible qui doit, selon le romancier, emporter tout le XIXe siècle vers le naturalisme. Convaincu de la toute-puissance de la méthode naturaliste, Zola mènera une triple campagne, défense des peintres naturalistes, manifeste théorique et conquête du théâtre par le biais des adaptations tirées des romans des naturalistes. Selon lui, il suffirait de prendre des personnages réels ou vrais, de leur donner des costumes vrais et de les placer dans un décor vrai pour que l'évolution naturaliste soit enfin accomplie au théâtre. Or, si les pièces que Zola tira de ses propres romans étaient des succès incontestables, ce n'était pas en raison de leur nouveauté naturaliste. Je cite le critique dramatique du Figaro, « La mise en scène, qui est très belle, très riche et très artistiquement comprise, ainsi que l'inestimable appui d'une interprétation excellente, assureront peut-être à Nana un succès de curiosité. » Vitu termine néanmoins son article en qualifiant la pièce d'un vulgaire mélodrame. Si les tableaux de Manet captent l'essence du naturalisme avec les méthodes que Zola décrit et qui lui réussissent dans ses romans, comment se fait-il que Zola échoue lorsqu'il tente d'apporter le naturalisme au théâtre? Faut-il conclure que le romancier ne comprenait rien à l'art de Manet ou, inversement, que le naturalisme était impossible au théâtre? Mon hypothèse est un peu moins tranchante. Dans le sens que le naturalisme est une expression du modernisme, je pense que Manet était un naturaliste. Une analyse du contenu représentationnel de son tableau peut donc confirmer, voire préciser, la définition que Zola nous donne de la méthode naturaliste. Par conséquent, une comparaison du tableau et du roman avec l'adaptation dramatique révélera non pas l'insuffisance ou l'incompatibilité de la méthode naturaliste au théâtre, mais plutôt, ou du moins dans ce cas, sa réalisation incomplète. Avant d'aborder une analyse comparative de ces trois œuvres, il faut premièrement répondre à deux questions fondamentales. Premièrement, de quelle façon est-ce que le contenu représentationnel d'un tableau se spécifie? Et deuxièmement, selon quels critères peut-on comparer le contenu représentationnel d'un tableau, d'un roman et d'une pièce de théâtre? Un philosophe finlandais, Pitkonen, propose que la façon dont un tableau ou une image représente quelque chose est déterminée par trois critères. Premièrement, Le tableau doit présenter un espace qui est à la fois l'espace du tableau, donc une surface plate, et l'espace de ce qu'il représente. Deuxièmement, il doit proposer une série de mondes possibles qui sont compatibles avec ce qu'il représente. Et troisièmement, il doit spécifier ce qu'il représente relatif à un point de vue qui permet au spectateur de fixer l'espace du tableau dans son espace visuel et de voir ainsi un objet à trois et non pas à deux dimensions. Il me semble que les trois critères de Pitkanen peuvent me servir comme point de départ d'une analyse qui cherche à définir et à comparer le contenu représentationnel d'un tableau, d'un roman et d'une pièce de théâtre, et ensuite à offrir quelques suggestions quant aux modalités de cette représentation. Mon but ici n'est pas de prouver que Manet songeait directement au roman de Zola lorsqu'il a fait son tableau, ni que Zola, lui, songeait directement au personnage de Manet, mais d'explorer les techniques grâce auxquelles chaque artiste a réussi à nous faire voir dans son œuvre le portrait d'une vraie fille. La définition de ces techniques m'aidera, je crois, à expliquer pourquoi les spectateurs de la pièce de théâtre n'ont pas vu ce que Zola voulait qu'ils voient. Alors, pour parler un petit peu de la méthode de Manet, tout à fait comme Zola, poussait les scrupules du réalisme jusqu'à chercher des modèles réels. Le peintre demanda à une célèbre demi-mondaine, Henriette Hauser, de venir poser pour lui. Zola, quant à lui, créa son personnage à partir d'anecdotes et de descriptions des biches les plus célèbres de son époque. Néanmoins, le portrait préliminaire de Nana qu'on trouve dans le dossier préparatoire du romancier ressemble plus au portrait de Manet qu'au modèle réel. Est-ce que je pourrais voir la première diapositive ? Voilà. Alors ça, c'est le portrait de Manet, et je vais vous lire maintenant la description de Nana qu'on trouve dans le dossier préparatoire. Elle est née en 51, en 67, fin d'année, décembre, elle a 17 ans, mais elle est très forte. On lui donnerait au moins 20 ans, blonde, rose, figure parisienne, très éveillée, le nez légèrement retroussé, la bouche petite et rieuse, un petit trou au menton, les yeux bleus très clairs, avec des cils d'or, quelques taches de sang qui reviennent l'été, mais très rares, 5 ou 6 sur chaque tempe, comme des parcelles d'or, la nuque ambrée, avec un fouillis de petits cheveux, sentant la femme, très femme, un duvet léger sur les joues. Voilà. À quelques détails près, notamment la couleur des yeux, la ressemblance entre la femme peinte et la femme décrite est frappante. Mais encore plus remarquables sont les étroites ressemblances entre l'espace, les mondes possibles et les points de vue que nous proposent ces deux œuvres. Dans le roman, l'action repose sur une double progression. D'une part, et comme l'a fait remarquer Peter Brooks, une des dynamiques majeures du roman est le dévoilement de Nana. D'autre part, et comme l'a fait remarquer Chantal Jennings, chaque chapitre du roman met en scène une confrontation entre deux mondes, le monde et le demi-monde. Et l'action progresse vers une diffusion des personnages d'un espace dans l'espace opposé et une transformation de la nature même des espaces. Et je pense ici surtout à la transformation du salon de la comtesse Sabine. Ces rencontres entre les deux groupes, le monde et le demi-monde, je maintiendrai, ainsi que les transformations qui en résultent, sont facilitées et même médiatisées par l'existence de certains lieux ambigus, le théâtre, les loges, les cabinets de toilette, le mystérieux logement de Madame Tricon, des lieux ambigus qui permettent aux deux classes sociales de se côtoyer et même de se rencontrer sans franchir ouvertement les barrières sociales. Régulateur des passages et des rencontres dans le roman, ces endroits sont également marqués d'un caractère transitoire et cyclique. Leur ambiguïté sociale, à la fois mondain et demi-mondain, intime et public, met ultimement en cause la structure de toute la société. Et c'est précisément le scandale de cette perversion de l'espace, de cette intimité envahie et rendue publique, qui est à l'origine du malaise dont expirera, selon Zola, toute la société du Second Empire. Si on revient maintenant au tableau de Manet, on reconnaît aisément les mêmes thématiques. Le peintre nous montre une scène très semblable à celle dont parle Peter Brooks, le regard franc et hardi de la cocotte, pareil à celui d'Olympia, nous fait entrer tout de suite dans son intimité. Cette femme en déshabillé suggère à la fois un état transitoire et une nudité particulière, réelle, tout à l'encontre du nu académique qui, selon Camille Lemonnier, ne cache rien et ne montre rien. La présence d'un homme en habit noir, le client sérieux qui, comme l'a fait remarquer Pierre D, était absent dans Olympia, précise la nature des lieux et l'identité de Nana en tant que fille. C'est dans ce sens, il me semble, qu'on peut dire que le tableau reproduit la même dialectique spatiale et thématique qui informe la structure du roman de Zola. Ici aussi, le mondain et le demi-mondain se rencontrent dans un lieu d'intimité devenu public. En même temps, le bord du tableau, qui coupe l'homme en deux, crée une impression d'instantané et met finalement l'accent sur la matérialité du tableau en tant que surface plate. Qu'en est-il du point de vue ? La scène correspondante dans le roman n'est pas racontée du point de vue d'un narrateur extérieur et objectif. Zola emprunte ici le regard du comte Muffat afin de naturaliser l'aspect mythique de son personnage. Et c'est précisément de ce dédoublement du point de vue que Flaubert complimenta Zola lorsqu'il lui écrit « Nana tourne au mythe sans cesser d'être réelle ». Est-ce que Manet réussit à traduire dans son portrait ce même dédoublement du point de vue ? Le regard dans Nana nous interpelle, semble préciser notre position et conserver une distance et un voyeurisme traditionnel, mais ce n'est que momentanément. Le tableau propose un autre point de vue, celui de l'homme sérieux, qui nous oblige à nous questionner sur la véritable regard de notre la véritable nature de notre regard. Le miroir dont la jeune femme détourne les yeux renforce l'impression d'instantané et nous fait entrer complètement dans son cabinet. Car cela ne peut être, en fin de compte, que nous qui avons interrompu sa contemplation. Dans le tableau de Manet, c'est le spectateur lui-même qui effectue cette invasion de l'intimité dont souffre toute la société du Second Empire, selon Zola. C'est donc par la stratégie des regards et non pas par le choix d'un modèle réel que Manet, comme Zola, réussissent à faire le portrait d'une vraie fille. Le tableau de Manet nous propose un point de vue dédoublé à la fois objectif et subjectif, extérieur et intérieur, semblable à celui dans le roman de Zola, et crée un même espace de l'ambiguïté et du transitoire. La définition que Zola nous donne de la méthode naturaliste et de l'œuvre artistique n'est donc pas fausse. Nous retrouvons dans le fameux coin de la nature, vu à travers un tempérament, les principaux critères de Pitkanen, l'espace, les mondes possibles et les points de vue. C'est parce que Zola et Manet adoptent un point de vue semblable, parce qu'ils reviennent, comme le voulait Zola, à la nature et l'interprètent avec leur tempérament d'artiste et leur instinct d'homme moderne, qui sont des naturalistes. L'ambiguïté est en effet la caractéristique principale du mythe de la vie moderne dans la nouvelle ville de Haussmann, qui, comme l'a dit T.J. Clark, est un libre champ de signes et d'expositions, une masse vendable d'images, un lieu dans lequel les anciennes séparations se sont effondrées pour de bon. Le moderne, pour répéter le mythe encore une fois, est le marginal, c'est l'ambiguïté, c'est le mélange des classes et des classifications, c'est l'anomie et l'improvisation, c'est le règne de l'illusion généralisée. Ces rapports étroits entre le tableau et le roman ne pouvaient que l'encourager Zola à reproduire son roman sur la scène. Sa conception générale de la pièce était en effet une visualisation du roman. Je cite de Zola, lorsqu'on tire une pièce d'un roman, il doit suffire de faire défiler une suite de tableaux détachés sans s'inquiéter d'inventer une intrigue. L'affranchissement du théâtre est là. Le choix des milieux et des décors déterminait ainsi l'agencement de l'action. Une action que son collaborateur Busnac jugeait souvent insuffisante. Ce dernier se disputa assez souvent avec Zola et cherchait à centrer l'action sur le personnage central. Et ce fut Busnac à la longue qui gagna. La pièce, qui était originalement présentée en 9 tableaux, fut réduite après la première représentation, à 5 actes. 5 actes qui étaient acte 1, un cabinet de toilette, acte 2, à la campagne, acte 3, le salon de Nana, acte 4, le boudoir de Nana, et acte 5, une chambre du grand hôtel. Dans la version finale de cette pièce, il ne subsistait ainsi rien des oppositions spatiales originalement prévues. Le monde des théâtres, le salon des Muffas, l'épisode aux courses, les personnages de Fontaine, de Satin et de Sabine avaient tous disparu. Le troisième tableau original qui devait représenter la loge de Nana fut supprimé par la censure au lendemain de la première représentation. Alors, vous savez la censure qui supprime ce tableau. Ceci explique aisément pourquoi le schéma narratif de la pièce n'a que peu de choses à voir avec le roman original. Les deux dynamiques principales, le dévoilement de Nana et la rencontre des deux mondes, le monde et le demi-monde, sont absentes de la version finale de la pièce. Si on regarde les images qui nous restent de la première représentation de la pièce en 1881 et de la reprise en 1912, on voit que l'accent est mis sur des confrontations d'un tout autre ordre. Voilà, c'est l'acte 2 de la pièce aux ruines de Chamon. Et ici, nous voyons Nana qui est poursuivie par le comte Muffat et qui persuade Nana ici de cesser de croquer des pommes avec le petit Georges et de rentrer à Paris avec lui. Ensuite, ça c'est l'acte 3. À l'acte 3, nous voyons Nana dans son salon. Elle est devenue une riche mondaine et elle est ici menacée par la vieille chiffonnière, la reine Pomaré, qui, à la différence du roman, pénètre jusque dans le salon de Nana et qui, ici, lui prédit une fin misérable. Et ensuite, vous voyez, donc c'est ça la confrontation entre Nana et la reine Pomaré. Et là, c'est une affiche qui représente l'acte 4, le moment où, tout de suite après le suicide de Georges, le moment où Madame Hugon vient reprendre son enfant et elle maudit Nana et lui dit « Vous avez pris mon enfant, que Dieu prenne le vôtre ». Et cette malédiction va se réaliser à l'acte 5 où justement l'enfant de Nana va mourir de la petite vérole et Nana tout de suite après. Donc voilà aussi Madame Hugon qui emporte son enfant. Le pauvre Georges, oui. Le caractère principal de ces confrontations, qui sont sorties toutes faites des conventions du vaudeville et du mélodrame, est, je crois, la causalité manichéenne. Or, on se souvient que chez Manet, ce sont les aspects transitoires et ambigus du tableau qui établissent l'identité de la jeune femme, se prise dans l'acte de s'habiller. Elle se montre sans pudeur, car, comme le dit encore Camille Lemonnier, le nu n'a pudeur qu'à la condition de n'être pas un état transitoire. Une des ironies et une des meilleures réussites de Manet est, je crois, d'avoir fait un tableau de la nudité sans montrer un nu. La courtisane est donc, par définition, une femme à l'état transitoire. Elle est également, comme le dit T.J. Clarke, une femme qui se définit par son ambiguïté. La courtisane, dit-il, était la personne qui se déplaçait avec le plus de facilité entre les rôles du XIXe siècle. Essayant les distinctions en apparence fixe de la société de classe et les rejetant à sa guise, les déclarant fausses comme le reste de ses poses, et la fausseté était ce qui la rendait moderne. Il est donc signifiant que dans la version finale de la natation, nous ne percevons aucun signe des origines de Nana, aucun signe de cette ambiguïté sociale, ni de cette intimité envahie et rendue publique que nous retrouvons chez Manet et dans le roman. Contrairement au roman où, comme l'a fait remarquer Peter Brooks, Nana est en fait une Vénus de Kitsch, Ici, à la scène, Nana est habillée d'un luxe tout à fait convenable et paraît tout à son aise dans ce décor mondain et de bon goût. Voilà. Les seules notes qui détonnent ici sont l'apparition de Pomaret et malheureusement, je n'ai pas de photographie du dernier acte de la pièce où les spectateurs devaient voir Nana qui sautait de son lit avec le visage couvert de pustules. Zola prétendait néanmoins qu'il avait réussi dans sa pièce à mettre en scène une vraie fille. Et voilà ce qu'il a dit dans la préface de la pièce. Malgré toutes les concessions, la pièce restera le premier essai de la vraie fille au théâtre. Et je parle de la fille dans son rôle de fille, avec le débraillé de sa vie, le galop de ses amants, ses coups de cœur et ses cruautés, son inconscience des catastrophes qu'elle détermine à chacun de ses pas. Là est l'originalité que pas un critique n'a voulu voir. Pour Zola donc, on n'a pas compris sa pièce parce qu'on a refusé de voir ce qu'elle représentait. Et Zola cite comme exemple type de ce refus l'attitude du critique Francisque Sarcy qui, à ses propres dires, a fermé les yeux au dernier acte lorsque Mademoiselle Massin a sauté du lit, le visage tuméfié par la petite vérole. Et ce dernier détail, pour moi, est révélateur. Dans le roman, la transformation de Nana nous est communiquée par les autres personnages, par les femmes qui sont venues la veiller. « Ah, elle est changée, » dit Rose Mignon. Curieusement, dans un roman du dévoilement, Nana n'est jamais montrée au lecteur qu'à travers les yeux des autres personnages qui, eux, effectuent son agrandissement mythique ainsi que sa mise à nu. Quand, enfin, le lecteur du roman voit Nana directement, il ne reste plus rien d'elle qu'un charnier, un tas d'humeur et de sang, une pelletée de chair corrompue jetée là sur un coussin. À la scène, en revanche, on voit Nana encore vivante et défigurée, et non pas un tas de chair corrompue. Alors, Zola ne réalise ainsi que partiellement sa propre définition d'une œuvre d'art. L'adaptation dramatique de Nana n'est pas un coin de la création vue à travers un tempérament. L'esthétique du quatrième mur, invisible aux spectateurs, visible aux acteurs, ne remplace pas le point de vue à la fois intérieur et extérieur du narrateur, elle le transforme. Nous ne voyons pas Nana comme une vraie fille, parce qu'elle nous est donnée à voir directement, sans ambiguïté et sans fausseté. Il reste à voir, ou à savoir, de quelle façon Zola aurait pu recréer, pour les spectateurs de la pièce, un point de vue semblable à celui du tableau ou du roman. Comme Manet qui, par l'ambiguïté et l'instantanéité de son tableau, finit par mettre l'accent sur son aspect matériel, sur les techniques de son illusion, il aurait peut-être fallu que Zola et Busnac aient envisagé une technique de distanciation pareille à celle de Brecht. Mais cela est sans doute une question à explorer dans le cadre d'une autre communication. Je vous remercie.